journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les syndicats de nouveau sur le ring. Deuxième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 1 200 000 manifestants attendus partout en France. 240 rassemblements prévus, 11 000 policiers mobilisés. Vous êtes peut-être dans la galère des transports, Europe 1 vous accompagne. Nous serons dans un instant en direct de la gare Saint-Lazare à Paris.
Alors cette nouvelle journée de manifestation, le gouvernement va la scruter avec attention, mais aussi fermeté.
Eh oui, le mot d'ordre de l'exécutif n'a pas changé, on ne lâche rien. Bonjour Arthur Delaborde.
Bonjour à tous.
Vous avez suivi hier le déplacement d'Emmanuel Macron à La Haye, le chef de l'État pour qui la réforme des retraites est indispensable.
Exactement, Emmanuel Macron, inflexible, le président ne veut pas laisser planer le moindre doute sur sa détermination à conduire la réforme jusqu'au bout. Il approuve la sortie de sa première ministre, critiquée par les oppositions pour avoir déclaré ce week-end que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable.
Que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
Porter une réforme des retraites n'est jamais simple, mais c'est notre responsabilité, a de son côté insisté Elisabeth Borne hier soir lors du bureau exécutif du Parti Renaissance. Dans le sillage de sa première ministre, certains proches d'Emmanuel Macron estiment qu'il faut muscler la parole de l'exécutif et rester sur une ligne de fermeté, continuer à se dire ouvert à la négociation, ne fait qu'entretenir la contestation, analyse un poids lourd de la Macronie qui ajoute « Nous devons aussi dédramatiser cette réforme car la bataille de l'opinion est déjà perdue ».
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Le chef de l'État droit dans ses bottes, on l'a bien compris, grève ou pas, il ne changera rien à son calendrier.
Mais oui, il reçoit aujourd'hui à l'Élysée le président du Parlement ukrainien et le ministre ukrainien de la Défense. On s'en souvient, le 19 janvier dernier, en pleine manifestation, il était à Barcelone, en Espagne. Des rendez-vous qui donnent un sentiment d'indifférence et qui renforcent la colère populaire, poussant même certains Français qui n'avaient pas manifesté il y a deux semaines à rejoindre les cortèges. Le reportage de Caroline Baudry.
Ils sont sourds à tous ces mouvements-là et c'est ça qui me met moi très en colère.
Rien qu'à Brest, où vit Christine, 13 000 personnes ont marché lors du premier rassemblement. Pas de quoi faire bouger nos dirigeants. Un déclic pour cet ingénieur pédagogique de 59 ans, bien décidé à grossir les rangs de manifestants.
On a l'impression que c'est une idéologie de revenir sur rien. Pas une prise en compte des remontées, des manifestations, des sondages qui sont plutôt défavorables à cette réforme. Il faut vraiment poursuivre, être encore plus présent.
Elle s'est cette fois organisée pour s'absenter au travail, comme Paul, salarié à Paris. C'est après la vague humaine dans la capitale qu'il décide de défiler avec ses amis.
S'il y a autant de personnes qui se mobilisent et qui sont aussi si différentes, c'est qu'il faut que je m'y intéresse un peu plus. Et en gros, j'ai un peu réalisé aussi l'ampleur de la réforme. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience, de ne pas être allé montrer mon soutien aux manifestants.
Pour plusieurs de ces nouveaux manifestants fermement opposés à la réforme, ce n'est que le début d'une série de mobilisations auxquelles ils sont désormais déterminés à participer.
Caroline Baudry pour Europe 1. Des grévistes dans les écoles, 50% des enseignants mobilisés. Dans les raffineries, 75 à 100% de grévistes chez Total Énergie. Dans les centrales électriques, la production électrique a déjà baissé de 3000 MW dans les centrales EDF selon la CGT. Et puis dans l'aérien aussi, un vol sur 10 annulé chez Air France aujourd'hui. 20% des vols à l'aéroport d'Orly.
Ah, mais le plus contraignant, le plus compliqué, ce sont les trains et les métros. Bonjour Guillaume Dominguez.
Bonjour.
Vous êtes Guillaume en direct ce matin de la gare Saint-Lazare à Paris où le trafic est très perturbé. Comment ça se passe pour les usagers, Guillaume ?
Eh bien ici, les annulations sur les transiliens s'enchaînent. Seul un train sur trois est maintenu, avec parfois quelques retards, notamment sur les lignes L et J. C'est un vrai casse-tête hein, pour les travailleurs pour se rendre au travail ce matin, comme Amélie. Elle vient de Mantes-la-Jolie et elle a mis plus de 2 heures pour se rendre gare Saint-Lazare.
J'ai dû revoir tous mes plans. Je suis en formation aujourd'hui à Paris. Et comme il était annoncé, seulement un train sur 10, mon voisin m'a déposé à Saint-Ouen. Donc j'ai dû me lever à 5h du matin pour être à 6h15 à Saint-Ouen, prendre un autre métro. La ligne 14 qui fonctionnait bien ce matin, heureusement. Et là, je suis dans Saint-Lazare et j'attends un peu dans le froid de trouver où petit déjeuner.
Voilà, la jeune femme doit encore se rendre dans l'est de Paris, mais elle m'a dit qu'elle prendra un taxi cette fois-ci. Impossible en revanche pour Delphine de prendre la voiture. Elle doit faire le chemin inverse, elle, direction Mantes-la-Jolie.
J'ai pas de train avant 9h, sachant que ce sont des trains qui vont mettre à peu près une heure et quelques. Je dois prendre un bus après et je ne sais pas s'il fonctionne, donc ça voudrait dire que je vais arriver peut-être à mon établissement peut-être vers 11h. Ça peut être prendre au moins peut-être 2 ou 3 heures pour arriver à mon collège.
Et cette professeure d'art plastique soutient pourtant le mouvement. Ils ont raison de faire grève, même si je me retrouve un petit peu prise au piège, m'a-t-elle confié.
Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe 1.
Merci Guillaume. Alors pas de transport. La solution peut-être pour vous ce matin, ce sera donc la voiture. Mais vous le voyez bien aussi à la station-service, les prix des carburants ont encore grimpé.
1,94€ pour le gazole, 1,91€ le sans-plomb. Un mois après la fin de la ristourne à la pompe, on se rapproche de nouveau des 2€ le litre. Plus cher que chez nos voisins européens. Mais alors pourquoi ? Pourquoi le prix du carburant continue-t-il de grimper en France ? C'est le tuto de la rédaction et il est signé Dimitri Vernet.
Eh bien, il y a trois explications à cette augmentation. Tout d'abord, les grèves de novembre qui ont considérablement bouleversé le marché. Avec les raffineries à l'arrêt, les distributeurs ont dû s'approvisionner en carburant ailleurs, ont payé le prix cher, répercussions immédiates sur son prix à la pompe. Paradoxalement, la ristourne totale a également eu un impact hein, puisque la concurrence ne pouvant s'aligner sur cette baisse de prix a laissé tomber et a conservé toutes ses marges. C'est le cas notamment de la grande distribution où il n'y a presque plus d'opérations prix coûtant. Et cela ne devrait pas aller en s'améliorant, c'est le dernier point, car dans les prochaines semaines, un décret de loi va interdire la publicité sur les produits pétroliers. Or, sans publicité, la grande distribution n'a plus aucune raison de casser les prix à la pompe.
Dimitri Vernet.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins. Dans le journal de 8h, une bonne nouvelle ce matin, ceci dit, les prévisions de croissance économique sont meilleures qu'attendues à l'échelle mondiale, plus 2,9% cette année, nous dit ce matin le FMI, le Fonds monétaire international.
C'est 0,2 points de plus que prévu. Même tendance dans la zone euro qui résiste mieux à la crise que ce qu'attendaient les économistes. Sa croissance en 2023 devrait s'établir à 0,7%. Selon l'INSEE ce matin, qui publie ses chiffres ce matin, la croissance de l'activité économique en France a atteint 2,6% en 2022. La consommation des ménages, en revanche, a reculé de 1,3%.
En bref, Benjamin Netanyahou en visite officielle à Paris. Ce sera jeudi, annoncière du cabinet du Premier ministre israélien.
À l'occasion pour Emmanuel Macron de tenter d'apaiser les tensions entre Israël et Palestine après les violences de ces derniers jours. Hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pu lui aussi échanger avec Benjamin Netanyahou. Il doit rencontrer aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
Et puis c'est un océan stratégique. L'Arctique est depuis hier au cœur d'une conférence qui réunit en Norvège tous les pays possédant des territoires au-delà du cercle polaire.
Et tous, sauf la Chine qui n'a pas été invitée mais qui est tout de même dans toutes les têtes. Pékin veut en effet y étendre son influence à la fois économique et militaire et pourrait même profiter de l'affaiblissement de la Russie pour pousser ses pions encore plus loin dans la région. La correspondance à Pékin de Sébastien Lebelzik.
Près d'un quart des ressources en hydrocarbures de la planète pourraient se trouver sous les glaces de l'Arctique, selon des géologues américains. Du pétrole, du gaz, des minerais et de nouvelles voies de navigation. Le pôle Nord attire toutes les convoitises, à commencer par celle de la Chine, qui construit notamment des infrastructures pour son allié russe, devant permettre à des porte-containers de naviguer au-delà du cercle arctique. Les pays de la région redoutent que la Chine en profite pour déployer des troupes, ce que dément formellement Gao Feng. Il est le représentant spécial de la Chine pour l'Arctique.
Vous pouvez voir que nous n'avons pas un seul soldat dans l'Arctique. Ne croyez pas aux rumeurs.
Si la Chine, c'est vrai, n'a encore aucune base militaire dans la zone, les États-Unis prennent l'affaire très au sérieux, car les Américains disposent d'une station radar dans le nord-ouest du Groenland, avec pour mission la détection de tirs de missiles nucléaires ennemis, à commencer par les missiles russes. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Voilà, c'était votre journal, Fanny Marceau. Merci beaucoup, Fanny. À demain, reposez-vous bien.